La chronique de Pierre-Yves McSween est présentée par Desjardins. Quels que soient vos objectifs, nos conseillers sont là pour vous accompagner tout au long de votre parcours financier.
C'est 23.
Voici Pierre-Yves McSween.
Tu as choisi un sujet très, très chaud parce que je reçois beaucoup de courriels, puis moi, je suis pas un comptable, là, mais les gens me soumettent souvent leur situation. C'est-à-dire tout le dossier des allocations familiales dans le cadre d'une famille recomposée, reconstituée.
Mm-hmm. En fait, le gouvernement, présentement, autant fédéral que provincial, a une patate chaude dans les mains. Depuis des années. En fait, depuis qu'on a mis en place les allocations canadiennes pour enfants, les allocations familiales du Québec, on a oublié que c'était pas une affaire tout seul. C'est pas un ovni qui se promène dans un monde séparé avec Jupiter puis Saturne, c'est sur Terre. Et sur Terre, il y a aussi d'autres enjeux fiscaux. Et là, le problème des conjoints qui se reconstituent une famille est le suivant. T'as le conjoint 1, disons, qui a déjà un enfant, disons le cas classique, là, t'as une mère monoparentale avec un enfant qui rencontre une personne puis qui se matche. Avant, elle recevait des allocations non imposables du Québec et du fédéral, pour avoir un revenu plus faible. Là, t'as un nouveau conjoint qui arrive dans le portrait, embarque dans l'appartement, vient vivre avec, puis paf, le gouvernement dit, ton nouveau conjoint, il est coûteux, là, il te rapporte de l'argent, et donc, tu vas perdre tes allocations familiales. Puis là, la dame dit, attends une minute, là, il vient dans ma vie, mais il paye pas pour mes enfants, là. Oui, on partage le téléphone, l'Internet, puis le chauffage, mais le reste, je le paye. Et donc, ça vient pénaliser les conjoints de fait qui se rematchent. Donc, ça, c'est le point A que j'ai souvent soulevé. Le problème, c'est dans la solution. Il y a des gens qui disent, ben, pas de problème, on devrait maintenir les allocations fédérales et provinciales quand tu te recomposes une famille parce que le nouveau conjoint, la nouvelle conjointe ne contribue pas aux enfants. Puis jusque-là, ils disent, ouais, ok, c'est discutable. Mais là où le bas blesse, c'est disons que tu faisais ça, Paul. Je te donne le cas classique. T'as un conjoint 1 qui a un enfant d'une autre famille, un conjoint 2 qui a un enfant d'une autre famille, et ils se rematchent dans une nouvelle famille et on leur laisse les deux leur allocation. Ce qui ferait en sorte quoi? Qu'une famille reconstituée serait plus rentable au niveau des allocations famille qu'une famille nucléaire qui s'est pas séparée. Et donc, on encouragerait le monde à séparer, avoir chacun un enfant, s'ormatcher pour avoir plus d'allocations. Donc, ça fonctionne pas. Donc, il y a des gens qui disent « Attends, on va trouver une solution hybride. » Si tu as un conjoint dans ta vie, son salaire va compter, mais pour moins que si ça avait été ton chum original. Et là, ça amène un paquet de scénarios.
Ça, alors, ça veut dire que le revenu met son gros nez dans ta vie de couple, là.
Ben, pas à peu près, mais c'est parce que ce qui est drôle avec les gouvernements, c'est la chose suivante, puis je le répète, parce que faut falloir peser souvent sur le bouton pour qu'ils écoutent. Un, quand c'est le père ou la mère qui paie une pension alimentaire pour enfant à son ex, le nouveau conjoint compte pas. Le gouvernement ne dit pas, ah, le nouveau conjoint, ça compte. Non, 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 ça compte pas, tu payes. Fait que ton ex se marie avec un multimillionnaire joueur de hockey pour le Canadien, pas de problème, tu payes quand même une pension alimentaire, tu sais. Mais quand c'est le gouvernement qui paye, lui, il tient compte du nouveau joueur du Canadien qui s'est marié avec ton ex, tu comprends? Alors, ce qui est drôle, que là, ce que je suis en train de te dire, c'est qu'il y a plusieurs problèmes là-dedans. Il y a un, qu'est-ce que tu fais avec le chèque des gouvernements quand il y a une famille reconstituée? Damn if you do, damn if you don't. Puis, comment se fait que tu traites différemment le chèque si c'est le conjoint qui paye, l'ex qui paye ou le gouvernement qui paye? Tout ça, là, c'est d'un ridicule fort. Mais le meilleur truc quand t'es député, Paul, c'est la chose suivante. C'est faire semblant que tu comprends pas la fiscalité et que t'as pas écouté puis que tu comprends rien. Donc, ce problème-là, tu le laisses en dessous du tapis puis tu continues de le laisser en dessous du tapis puis tu le maintiens en dessous du tapis. Là, ils nous ont écoutés un matin, là. Ils savent, là, il y a un problème. Penses-tu qu'ils vont le régler?
Non. Bingo.
Voilà.
OK. Deuxième sujet, c'est... on a parlé un peu la semaine passée, là, la spéculation en bourse qui... entoure notamment des fabricants de véhicules électriques.
Oui, je t'avais dit la semaine passée, Rivian Automotive rentre en bourse, puis ça va être une explosion temporaire, puis tu sais, il y a un jeu de gambling là-dedans. Puis comme de fait, là, ça a pris encore 70% depuis la première journée d'entrée en bourse, tu sais. Puis Rivian, qui est des pick-up, hein, puis des VUS qui sont pas encore sur le marché, là, vaut plus cher que Ford et GM présentement où on se parle. Et ajoute à ça, Lucid, qui est une espèce de véhicule de luxe style Tesla, mais plus de luxe, qui a pas encore vraiment de vente, qui aussi a dépassé les constructeurs américains. Alors là, tes gros constructeurs américains, c'est Tesla, plus deux constructeurs qui vendent pas vraiment de véhicules encore, vraiment, disons, dans le marché. Tu regardes leurs résultats, c'est très négatif. Et non seulement c'est négatif, il y en a qui ont pas de vente. Mais quand même, les investisseurs se sont garochés là-dedans en se disant il va y avoir de la réglementation, il va y avoir des gens qui vont vouloir qu'on ait juste des véhicules électriques, puis les anciens constructeurs vont être incapables. C'est comme si on prenait pour acquis que ça allait arriver. D'ailleurs, Ford a investi dans ces compagnies-là. T'as Amazon qui a investi. Alors, ça motive des investisseurs à se dire sont bien financés. Et donc, là, présentement, c'est comme si, comme ancien constructeur qui est là depuis 50-100 ans, t'as une tâche à ton dossier. T'étais là dans l'ancien temps. Alors, les nouveaux investisseurs qui aiment bien le spéculer, le trouver le prochain Tesla, se garochent là-dedans. Mais ce qui est fou, c'est que l'action valait, de Lucid, par exemple, valait à fin octobre 25$. Là, t'es à 60. Il s'est rien passé de spectaculaire, là. C'est juste que là, on y croit. Puis on y va. Puis là, il y a des discussions. Puis les gens achètent. Mais quand tu regardes leurs revenus, tu sais, les revenus de ces compagnies-là, c'est spectaculaire. Lucid, au dernier trimestre, a généré 232 000 de revenus. 232 000 de revenus. Avec des pertes de 524 millions. C'est pas grave, Paul. C'est le futur. Alors, l'affaire qui est drôle, c'est que t'as des banquiers d'investissement qui, lorsque l'action s'en va en bourse, dit « Voici la valeur de l'action selon nos évaluations rigoureuses, sérieuses. » Puis après ça, ben le marché s'emballe. Le marché dit « Ça vaut, ça double la valeur. » Le marché dit « Ça triple la valeur. » Tu sais, la compagnie Rivian n'arrête pas de monter. Donc, tu dis « On arrête où? » À quel moment tu te dis « Oui, on devant le futur. Oui, ça va. Oui, ça vaut la peine de payer pour une action. » Mais jusque où? Donc, on peut regarder ça, mais c'est spectaculaire.
Merci, Pierre-Yves. Bonne journée. Salut.
C'est 23.